pour investir, la boîte à outils.
Bon, vous venez de commencer votre vie active, vous commencez à avoir la chance de pouvoir mettre un petit peu de sous de côté, vous avez la trentaine. Comment on commence un patrimoine? Parce que c'est un petit peu comme commencer une stratégie, commencer un plan, commencer une nouvelle vie, il y a un peu l'angoisse de la feuille blanche. Alors, Christian Fontaine, magazine Le Revenu, merci d'être à nouveau là pour répondre à cette question. Parce que se créer un patrimoine de toutes pièces, alors déjà, a priori, on en a un petit peu par ses parents et y a des considérations de génération. Mais voilà, quand on veut commencer à mettre de côté pour sa vie future, comment on fait, par quoi on commence? Et puis, voilà, surtout, les premiers pas, c'est quoi selon vous?
D'abord, deux préalables. Le premier préalable, ça va de soi, mais il faut le rappeler, il faut s'intéresser à la matière. Oui. Il faut un minimum s'investir dans la gestion de son argent, dans le choix de ses placements, de ses investissements. Et je dirais que le jeu en vaut largement la chandelle, puisqu'il y a là des gains de productivité et surtout des gains de pouvoir d'achat considérables. C'est vraiment, les Français comparent beaucoup lorsqu'ils achètent des produits d'équipement, des produits de grande consommation, mais ils comparent peu et ils s'intéressent pas encore assez à la gestion de leur argent. Le deuxième point, c'est d'y consacrer un minimum de temps, on va dire entre une demi-heure et une heure par semaine. Et je dirais que le troisième point, il ne faut pas hésiter à placer comme on aime. C'est-à-dire que on parle beaucoup sur votre émission et dans Le Revenu aussi, on parle d'assurance vie, on parle de bourse, on parle d'actions, on parle d'ETF, on parle de crypto-actifs. Je dirais que tous ces placements ont des atouts et des inconvénients. Par contre, ce qu'il faut, c'est absolument être à l'aise avec vos placements, comme il faut être à l'aise avec vos dettes. Et si vous aimez davantage la pierre que les placements financiers, ben il faut y aller. Mais si vous préférez la bourse à la pierre aussi, il faut ne pas hésiter. Alors, à 30 ans, d'accord avec vous, Antoine, on commence à être un tout petit peu installé dans la vie. En tout cas, on peut espérer d'avoir un contrat, un travail avec un minimum de qui vous offre un peu de visibilité, de la visibilité sur le plan professionnel, de la visibilité sur le plan personnel. Donc, c'est l'âge idéal pour la charnière, pour commencer à poser donc alors des fondations solides. La première pierre, bien sûr, d'un patrimoine réussi, je vais vite parce que c'est connu, bien sûr, sur la constitution d'une épargne de précaution égale à 3 à 6 mois de dépenses courantes qu'on place sur un livret A LDDS ou un livret d'épargne populaire si on y a accès. C'est de l'épargne pour les coups durs, c'est de l'épargne pour remplacer une machine, c'est de l'épargne pour payer un surcroît d'investissement, un surcroît d'impôt. C'est absolument indispensable. C'est cette poche de liquidité qui va vous permettre de ne pas puiser dans votre épargne de long terme si jamais il vous arrive un pépin. C'est absolument essentiel.
Donc, c'est la tuyauterie. Hein. C'est pas une fin en soi. C'est vraiment
un minimum, minimorum, 3 à 6 mois de dépenses sur des livrets. Ouais. Pas davantage. Pourquoi? Ben parce que le livret A c'est 1,5% et donc ça rapporte moins que l'inflation. Donc vous perdez chaque mois en pouvoir d'achat. Il faut le matraquer. Donc on y place le minimum minimorum. Quant à l'excédent, bien sûr, on ouvre les fameuses enveloppes fiscales, PEA, assurance vie, ces deux enveloppes fiscales absolument indispensables. On est en France, on ne peut pas raisonner hors fiscalité, ce n'est pas possible, sinon vous allez vous faire rattraper par la patrouille le jour où vous sortirez de vos placements.
Bon, si vous avez la chance d'avoir un excédent, c'est toujours bien.
Bien sûr, mais l'avantage c'est que vous pouvez ouvrir un PEA ou un contrat d'assurance vie avec quelques centaines d'euros, ça suffit largement.
Oui, il n'y a pas de...
Ensuite, ce qui compte, c'est que, en fait, c'est la date d'ouverture du contrat qui va vous permettre, le compteur fiscal va commencer à tourner à partir de cette date-là. Et donc, comme le PEA, il faut 5 ans depuis l'ouverture pour profiter de la fiscalité la plus favorable et l'assurance vie 8 ans, si vous en ouvrez aujourd'hui et que dans quelques années, vous avez des rentrées d'argent importantes, ces enveloppes fiscales seront les réceptacles idéales pour votre épargne et vous n'aurez plus à attendre que quelques mois, voire quelques années au maximum pour profiter de la fiscalité la plus favorable.
C'est pour ça que le banquier ou le CGP vous dit toujours il faut prendre date. Oui, non mais ils ont raison parce qu'on pose une petite centaines d'euros et puis au final on a un support qui est défiscalisé plus vite. Voilà, ça permet.
Voilà, ils ont raison pour PEA et assurance vie. Alors pour terminer deux points. Le premier c'est acheter ou louer. Vous savez ça c'est une grande question. Au revenu on a résolu le problème. Presque ad vitam aeternam, on ne spécule pas sur la résidence principale. Et je vais vous expliquer très concrètement. Jamais, donc on achète si on dispose d'un minimum de visibilité sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Et si on peut pas acheter son logement parce que on habite dans une ville où l'immobilier est trop cher, une grande métropole, il faut prendre un pied dans l'immobilier en investissant dans du locatif, voire une résidence secondaire. Et pourquoi ça? Ben pour une raison très simple, pour ne pas être, je dirais, expulsé du marché si les prix continuent à baisser. Et puis pour être très concrètement au niveau du logement, c'est une façon de sécuriser votre parcours résidentiel et celui de vos proches. Si vous êtes locataire et que vous perdez votre emploi, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Vous pouvez, et que juste à ce moment-là, votre propriétaire veut récupérer son logement pour lui ou pour un proche, vous retrouvez à la rue, et bien sûr, aucun propriétaire n'acceptera de vous louer si vous êtes au chômage. Donc là, vous êtes le bec dans l'eau. C'est on ne spécule pas sur la résidence principale, on achète si on met un pied dans l'immobilier. Ouais. L'immobilier, c'est aussi la première décision. Investir dans la pierre, c'est la première décision que vous prenez aussi pour votre retraite. Le jour où vos revenus seront divisés par deux, vous serez bien content si vous n'avez plus un loyer à décaisser chaque mois. Et ça, c'est même sans parler de la prévoyance dont on ne parle jamais assez. Vous savez, l'assurance emprunteur est dans les faits obligatoire lorsque vous souscrivez un crédit immobilier. C'est l'assurance qui va rembourser le prêt si j'ai en cas de décès ou d'invalidité. Et cette assurance est un formidable outil de prévoyance parce que si vous êtes la principale source de revenus au sein de votre famille et qui malheureusement il vous arrive un pépin de santé grave, le conjoint survivant ne devra plus rembourser le capital restant dû à la banque puisque ce capital restant dû sera remboursé par l'assurance. Donc certes, l'assurance emprunteur peut coûter cher et coûte un petit peu d'argent, mais c'est aussi un formidable outil de prévoyance. Et je terminerai en disant que sur ces quelques règles de base, ou ce qu'il faut faire lorsqu'on a 30 ans et qu'on veut bien débuter avec les placements, c'est bien sûr ne pas faire une croix sur la bourse. Dans un monde idéal, on emprunte pour s'acheter son logement, mais on essaye de conserver quelques noisettes pour les investir en bourse. Via un PEA ou un contrat d'assurance vie en DCA.
Pourquoi on ferait une croix sur la bourse si c'est de l'excédent, si c'est une fois que vous avez bien ajusté vos positions sur l'immobilier, sur la prévoyance, sur commencer à regarder pour la retraite? L'excédent, c'est encore mieux quand il marche. On va pas le mettre sur quelque chose qui marche pas. C'est
alors, bien sûr. Après ça, on vit pas dans un monde parfait. Et à partir du moment, notamment dans les grandes villes, si on investit dans la pierre, généralement, on s'endette quasiment à la limite du supportable. Notre conseil au revenu, c'est plutôt de toujours, je dirais, de conserver un taux d'endettement raisonnable, ce qui permet de faire face aux imprévus, de dormir tranquille. Et puis surtout, si vous investissez régulièrement en bourse, vous allez profiter de la tendance haussière de la bourse sur une longue période et au bout de 5, 10, 15 ans, vous avez la possibilité ainsi de vous constituer, je dirais sans trop de douleur, un capital significatif dans lequel vous pourrez puiser pour vous faire plaisir, pourquoi pas une nouvelle voiture, pourquoi pas une résidence secondaire, pourquoi pas, préparer sa retraite. C'est un peu dommage de se priver du potentiel de la bourse, qui est quand même le placement le plus rentable sur le long terme, pour n'investir entre guillemets que dans l'immobilier. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en place effectivement un DCA sur un ETF MSCI World par exemple, dès 30 ans. C'est un bon placement. D'ailleurs, c'est un placement qui est largement mis en place par tous ces jeunes qui sont venus à la bourse au moment du Covid. Ouais. Ces millions de jeunes, et effectivement leur placement préféré, ce sont les ETF, et les ETF pas n'importe comment, avec méthode et avec un investissement programmé pour lisser le prix de revient tout en profitant d'un support d'investissement diversifié peu chargé en frais.
Ouais, c'est vrai que c'est devenu un grand classique de l'investissement, mais il marche, il fait ses preuves et c'est vraiment devenu un changement de paradigme depuis le Covid, cette affaire. Merci infiniment Christian Fontaine du magazine Le Revenu.